Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc « Regarde ailleurs », c'est vraiment cette envie d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde, à travers des gens que je rencontre, soit sur les routes du monde, soit en festival, soit ici dans mon salon avec toi Laetitia. Je sais encore peu de choses de toi, l'idée c'est vraiment de prendre le temps de te rencontrer à travers ce micro et de partager ton expérience de voyageuse. « Regarde ailleurs », c'est souvent un podcast en lien avec cette notion de voyage, d'interculturalité, où je donne la parole à des écrivains, des réalisateurs, des conférenciers, des voyageurs comme tu es. On s'est croisés ici, il y a quelques années, à Strasbourg, lors d'une conférence. On s'est retrouvés un peu par hasard, si le hasard existe, quelque part au Cambodge, à Kampot, pour te retrouver encore quelques mois plus tard, à nouveau, sur Colmar. Donc je sais que tu fais partie de cette famille qui ont eu, très jeune, cette envie d'aller explorer à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi, à travers le voyage. Donc Laetitia, parole à toi, reviens peut-être sur la première fois où tu t'es dit « maintenant c'est le moment pour moi de me mettre en mouvement et de partir sur les routes du monde ».
Bon, alors moi, où est-ce que ça a commencé? Ben, ça a commencé très très jeune, ça a commencé sur mes feuilles à l'école quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Il y a déjà des moments où j'écrivais « voyageuse » parce que mon papa était nomade jusqu'à... c'est 40 ans, je crois, jusqu'à avoir des enfants, il avait plutôt un mode de vie voyageur. Et à chaque fois que maman travaillait trop, ce qui était souvent, il nous racontait ses histoires de voyage. Donc j'ai toujours eu envie de faire pareil. Mais par contre, il m'avait dit, bon, toi, t'es une femme, ça va être plus difficile parce que tu pourras pas traverser le Sahara comme j'ai fait, aller dans plein de pays où la femme a pas la possibilité d'être en mouvement. Et là, bon, bah voilà... emmenée par ma notion de l'injustice, comment ça, une femme pourrait pas faire ça, ça m'a un peu réveillé mon côté rebelle. Ah bon, une femme peut pas faire ça, bon ben, je vais le faire. Donc voilà, j'ai fait mes premiers voyages à cadeau à 18 ans. Et puis après, j'ai quand même eu un petit passage d'une vie assez classique, parce que voilà, j'avais un compagnon, un travail en tant qu'artiste, mais quand même un travail constant, un appartement. Et j'avais 22 ans à l'époque. Et là, je suis partie en Amazonie pour la première fois. Et je me suis sentie vivre tous les jours un peu plus. Je sentais des choses qui se réveillaient en moi, qui s'étaient jamais réveillées avant. Et je me sentais vivre pleinement. Donc je suis quand même rentrée en Alsace pour quitter tout ce que j'avais, donc mon compagnon, mon mode de vie et tout ça, et je suis repartie juste avec un billet aller pour de nouveau donc en Amazonie et pour aller découvrir la vie tout simplement avec un grand V, ce qu'elle offrait quand on ouvre tout et qu'on laisse rentrer ce qui est là.
On va en parler de ça, cette notion d'ouverture, et des fois la magie opère, hein, cette notion de sauter sans filet, de voir que le filet est bien là, mais on ne le voit pas toujours. Donc tu pars à 22 ans en Amazonie, comment est-ce que tu as choisi ta destination? Parce que je crois que tu me parlais avant de ton papa nomade, mais lui c'était plutôt l'Asie ou l'Inde, donc qu'est-ce qui a orienté ton choix vers l'Amazonie?
Alors l'Amazonie, lui, c'était l'endroit où il n'avait jamais pu aller parce qu'il n'avait pas eu l'argent pour payer son bateau. Et le bateau stop, à l'époque, ça n'avait pas très bien marché. Donc c'était son rêve inassouvi. Donc il me parlait de l'Amazonie comme de la chose qu'il aurait aimé voir. Et puis, tout simplement, il y avait une amie qui travaillait en Guyane à ce moment-là et qui m'avait dit, bah, moi, il me reste quelques mois de travail ici. Donc si tu veux venir découvrir, eh ben, je te montre un petit peu. Et donc, c'était un peu comme ça, en allant lui rendre visite le premier mois, que j'ai découvert la jungle. Et donc après, ben, passer la frontière du Brésil et remonter l'Amazone en bateau. Et là, aller m'enfoncer un petit peu plus dans qu'est-ce que proposait cette nature, ce continent et tout simplement l'ailleurs.
On parlera des différents peuples que tu as rencontrés. Je sais que tu t'es pas mal inspiré dans ton art aussi, hein, du peuple Shipibo. Quand tu es parti en Amazonie, tu y allais en avion? Tu parlais de bateau stop, ou est-ce que tu as fait le choix de traverser l'Atlantique pour pouvoir y aller?
Non, j'y suis allée en avion. En fait, j'avais vraiment envie de commencer mon voyage déjà sur ce sol-là. Après, c'est un moyen que j'ai pas voulu utiliser trop souvent. J'ai surtout voyagé en stop, en bateau, en vélo, à pied, de diverses manières. Mais en tout cas, l'avion, ouais, j'y suis allée. Je suis arrivée sur le sol sud-américain en avion. Et puis après, tous les autres moyens sont arrivés au fur et à mesure.
Quand tu parles de ton papa qui te disait un voyage c'est chouette mais seul c'est dangereux, donc là t'as 22 ans, tu pars en Amazonie toute seule pour une durée indéterminée avec un aller simple, comment c'est accueilli dans ta famille ?
Dans ma famille, c'était plutôt, je dirais, de l'intrigue. Ils ont jamais voulu me mettre des peurs dans la tête parce que je pense qu'ils ont compris que ça servait pas beaucoup. J'avais pas une très bonne relation à ce moment-là avec eux. Il y avait un peu une rupture quand même, comme ça arrive avec beaucoup de personnes. En tout cas, j'avais décidé à ce moment-là de couper avec tout. Je suis quand même passée par une phase de rupture assez générale de mon mode de vie, de ma famille, de tout ça pour me redécouvrir en tant que personne neuve. J'ai eu besoin de passer par oublier comment la Laetitia s'est construite et en fait de repartager tous ces moments-là avec eux, ça a pu se faire plus tard.
Où est-ce qu'on trouve la force pour créer cette rupture ? Tu disais, tu étais dans un couple, tu avais une vie ici en France, donc ça nécessite de tout couper pour complètement se lancer dans l'inconnu. D'où vient cette force qui permet de faire ce premier pas ?
Je pense que j'étais arrivée à un état de rupture, de saturation, où le soir, je pleurais, j'étais vide, je me sentais vidée. Donc je sais que quand au début, j'ai voulu partir... Au début, j'ai pas voulu partir. Au début, cet ami m'a invité, je lui ai envoyé tout un message en écrivant pourquoi je ne venais pas. Mon copain, mon travail, toutes les choses qui m'enfermaient en disant, bah voilà, j'ai ces responsabilités, j'ai tout ça. Puis j'ai relu mon message en me disant, mais j'ai quel âge? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que tout ça, c'est des raisons suffisantes pour pas m'emmener voir autre chose? Donc j'ai effacé le message et j'ai juste dit, j'arrive. Et j'ai acheté un billet. Donc en fait, ça s'est vraiment passé sur une prise de conscience qui a duré une demi-seconde, en fait, en relisant mon propre message et toutes les raisons que j'avais écrites qui parlaient de pourquoi je ne venais pas, en fait. Donc j'avais besoin de passer par l'écrit et de me lire et de me dire, en fait, tout ça, là, c'est pas le plus important.
Mais ça, c'est intéressant parce que souvent, on est prisonnier de son contexte social, culturel, de la réalité qu'on vit ici. Et le lointain peut nous faire peur parce qu'effectivement, on ne connaît pas. Et des fois, il suffit de faire un pas de côté et de se rendre compte que, bah, en fait, non, il suffit d'y aller, quoi.
Ouais, des fois, il suffit d'y aller. Et puis, en fait, tous les dangers qu'on pense être existants, la plupart n'existent pas. Et ça, on peut se rendre compte qu'une fois qu'on y est. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ah, bon, ça, c'est peut-être réel. Mais en fait, la plupart des choses qu'on ressent, la plupart des peurs qu'on fait prendre vie, prendre matière en face de nous, n'existent pas quand on y est. C'est des constructions qu'on se pose et qui, par nos idées, nos pensées paraissent tellement réelles qu'on les matérialise presque. Alors qu'une fois qu'on est dans ce flow-là, toutes ces peurs-là, toutes ces choses qui nous retiennent ont en fait aucune substance.
Donc tu te lances dans cette aventure avec ton sac à dos à 22 ans, sans savoir combien de temps va durer l'aventure. Donc raconte-nous un petit peu de cet itinéraire, comment est-ce que tu arrives là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Donc tu pars de la bord de la Guyane, hein, où tu avais quand même un pied à terre en arrivant, mais après tu as continué ton itinérance.
Oui, alors après, en arrivant au Brésil, j'étais avec cette amie donc qui m'avait reçue le premier mois, on a voyagé ensemble, sauf qu'elle était partie pour 3 mois de voyage et moi j'étais partie à durée indéterminée, donc elle voulait aller beaucoup trop vite par rapport à ce que je voulais vivre. Mais encore à ce moment-là, être toute seule, ça me faisait peur, donc c'était encore une barrière à lâcher. Et au moment où je me suis dit, elle a voulu prendre l'avion, on était en bateau, on remontait l'Amazon jusqu'au Colombie-Pérou. Et là, je lui ai dit, non, moi, je continue en bateau, je ne vais pas monter dans un avion. À ce moment-là, ma banque a fait une erreur, elle a coupé mes ressources et ma carte bancaire s'est fait avaler par un distributeur. Donc, en plus d'être toute seule, je me suis retrouvée sans argent à ce moment-là. J'ai voulu demander à ma famille un Western Union. Il y a tout le système électrique de Western Union qui a sauté parce qu'un lézard s'est retrouvé dans un compteur. Bon, une histoire improbable qui a fait que je me suis retrouvée toute seule et sans argent. Et que là, c'était un peu toutes mes craintes d'un coup. Et en fait, c'est génial parce que c'est en voyant que quand mes craintes arrivent vraiment, c'est-à-dire donc de me retrouver ce que je pensais être démunie et en mode survie, que c'est là où c'est pas la survie qui s'est mise en place, mais juste la vie. C'est-à-dire de m'ouvrir à, ok, quelle est l'opportunité maintenant si j'ai pas d'argent pour me débrouiller ? Quelle est l'opportunité maintenant pour rencontrer des gens avec qui je peux partager quelque chose et peut-être être logée et nourrie ? Donc il y a aussi une besoin de nécessité à ce moment-là. Et puis jusqu'à ce que je me rende compte que prenne le pas sur la nécessité, l'envie de rencontrer. J'ai rencontré une personne fantastique hier parce que j'en avais besoin. Aujourd'hui, j'ai juste envie de rencontrer quelqu'un, puis ainsi de suite. Cette envie d'être en contact avec l'autre a fait que le voyage a commencé à être vraiment humain. Donc, Donc voilà, quand j'ai récupéré une carte bancaire, j'ai plus voulu l'utiliser parce que finalement j'ai adoré ça. Ça a mis 4 mois avant que je récupère une carte bancaire. Et puis j'ai plus voulu l'utiliser, ni même le téléphone portable. J'avais plus de téléphone portable. Et donc j'ai passé cette première année et demie, 1 an et demi, 2 ans, en Amérique du Sud, à expérimenter un mode de vie qui était totalement différent de celui dans lequel j'ai grandi.
Mais donc sans argent?
Alors, sans argent, j'avais quoi? J'avais 200 euros à ce moment-là, et puis après, des petits boulots à droite à gauche, du woofing, je peignais des fresques dans des hôtels, restaurants, des choses comme ça. Après, j'avais trouvé, dans un hôtel où je travaillais, j'avais des voyageurs qui oubliaient des tentes, des matelas, tout le matériel de camping que j'ai récupéré, et puis je voyageais en stop, et puis finalement, j'ai pratiquement plus eu besoin d'argent très rapidement. Et puis après, je travaillais de temps en temps dans ce qui me fait plaisir, dans les arts, dans la peinture. Je me suis mis au tatouage aussi, parce que j'ai toujours fait des choses artistiques, donc le tatouage, la peinture, de temps en temps, travailler dans un petit resto, ou dans le trier des graines de café, ou d'aider les gens chez eux dans leurs tâches quotidiennes. J'ai jamais voulu exploiter les gens, j'ai toujours pris soin de leur offrir autant qu'ils m'offraient si c'était possible, mais les gens sont tellement heureux de donner qu'au final, des fois, il fallait insister pour « Ok, aujourd'hui, je vous fais à manger, je vous offre quelque chose. Non, non, t'es chez nous, c'est nous qui t'offrons des choses. » Donc voilà, de toujours garder un équilibre, être là aussi à offrir son énergie, qui on est, et puis en même temps, être dans l'échange.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est ce qui est fascinant, c'est quand on commence à aborder ce sujet de l'argent et du voyage sans argent. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, il y a une émission qui est très médiatisée aussi en France, je pense à Nu et Culotté, cette notion, cette dimension de partir à poil et montrer que finalement quand on a une intention qui est celle de rencontrer l'autre et d'être dans le partage et dans l'échange, le voyage devient beaucoup plus puissant, beaucoup plus impactant, beaucoup plus prégnant, et quand on enlève la contrainte de l'argent, il y a une forme de magie qui opère.
Oui, oui, il y a de la magie qui opère, et aussi parce que j'ai l'impression que des fois, comme l'argent nous offre tout, on n'a pas besoin d'aller vers l'autre pour lui demander, quelque part. Donc si mon argent m'offre naturellement l'occasion d'aller dans un hôtel et un restaurant, pourquoi est-ce que j'irai chez les gens pour les rencontrer? Pourquoi est-ce que j'irai leur donner ce coup de main? Pourquoi j'irai récolter le cacao ou telle racine? Donc en fait, ça coupe énormément des possibilités d'une vraie rencontre, et d'une vraie rencontre aussi dans le mode de vie et dans la vérité du quotidien des personnes dans d'autres cultures, dans d'autres environnements.
Et ça, tu l'as découvert finalement grâce à ce distributeur qui t'a avalé ta carte, donc quelque part ça t'a rendu service.
Ah mais complètement, je suis même allée voir ma banque du coup en rentrant après 2 ans, et je leur ai expliqué ce qui s'est passé au suite de leur erreur. Du coup je leur ai dit voilà, vous m'avez coupé mon compte en banque, et voilà tout ce qui s'est passé derrière. Le gars était désolé, catastrophé, en disant on est vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je leur ai dit mais non, regardez tout ce qui s'est passé, c'est incroyable, donc merci pour ça. Je pense que cet homme ne comprend toujours pas, mais moi en tout cas j'ai vraiment de la reconnaissance envers ce qui s'est passé, oui.
Donc un voyage qui aura duré 2 ans finalement.
Celui-là, oui, quasiment 2 ans, peut-être quelques mois moins, 1 mois et demi, 2 ans, ouais. Et je suis rentrée en France pas parce que j'ai eu envie donc à ce moment-là, mais parce que pour des raisons de papier dans des aéroports, bref, quelque chose qui s'est mal passé dans un aéroport, j'ai dû revenir en France.
Et je pense que c'est à ce moment-là, dans une conférence sur, c'était quoi, les neurosciences, c'est ça ? J'entends quelqu'un intervenir au fond de la salle, et tu devais rentrer à cette époque-là, hein, d'Amérique du Sud. Mmh. Et je pense que tu avais partagé une expérience que tu avais eue avec les plantes.
Oui, donc c'était une conférence science, art et méditation, donc ça parlait beaucoup de neurosciences, et donc il parlait aussi du fonctionnement du cerveau, et moi j'étais intéressée de savoir la glande pinéale, donc à l'intérieur du cerveau, c'est la glande qui est activée quand il y a des plantes qu'on utilise beaucoup, donc en Amérique du Sud, comme l'ayahuasca ou d'autres, qui, quand elles sont ingérées, cette glande pinéale est réveillée et fait vivre des expériences qui peuvent se rapporter à des morts imminentes, à plein de choses. Bon, ce sujet est beaucoup trop large pour s'y perdre, mais en tout cas, j'étais intéressée de savoir en neurosciences quelles étaient leurs études, en tout cas par rapport à cette partie-là du cerveau.
Est-ce que ça a été un peu ton fil rouge sur le voyage ou pas forcément? Parce que 2 ans sur un pays, donc tu me parlais de woofing, de rencontres, est-ce que tu nourrissais un projet particulier ou est-ce que quelque chose a émergé pendant ce voyage?
Alors ça a plutôt émergé pendant le voyage parce que j'étais très, très contre ce que j'appelais les drogues. Donc en fait ces plantes sont venues beaucoup beaucoup de fois dans ma vie et je leur disais toujours non, en disant non, ça ne m'intéresse pas du tout les drogues. Alors j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que là-bas c'était une médecine et que cette médecine était très puissante et qu'elle nous guidait dans un endroit qui était vraiment ce qu'on avait besoin de recevoir à ce moment-là. Donc moi, j'ai passé des mois à dire non, je ne veux pas. Puis le jour où j'ai fini par dire oui, parce que ça devenait trop évident, j'ai compris que cette médecine était très puissante et puis elle a changé en fait ce pourquoi je faisais chaque pas dans ma vie et aussi dans mes voyages. J'ai changé un peu mes directions en voyant qu'il y avait des choses beaucoup plus grandes qui existaient que juste... la conscience limitée que j'avais avant des choses, du monde, des différents plans de réalité.
Donc là, on rentre dans un sujet très culturel où tu parlais des drogues. Donc ça, c'est un terme qu'on diabolise ici. Hein. C'est vrai qu'on associe le mot drogue aux psychotropes chimiques, mais aussi à certaines plantes qui, selon certains peuples, certaines cultures, ces mêmes plantes sont des plantes des dieux et sont là, effectivement, pour nous accompagner à guérir, se guérir soi, guérir son âme, guérir son corps. On sait aussi dans nos cultures que la plupart des plantes, finalement, dans la pharmacopée, hein, pas mal de médicaments sont faits à partir de molécules des plantes. Donc pourquoi est-ce que certaines plantes ne nous permettraient pas d'accéder à des niveaux vibratoires ou des niveaux de conscience différentes? Et ça, c'est complètement accepté dans d'autres peuples, d'autres cultures.
Oui, plus qu'accepté, quand tu parles de déité, effectivement, en fait, c'est des plantes qui ont une conscience et qui sont représentées, qui peuvent être vues et représentées comme des déités, qu'on peut voir sous forme humaine, sous différentes formes d'énergie, et qui ont donc dans leur âme et dans leur intention possibilité de nous emmener dans des endroits d'éveil, dans des endroits où notre conscience de chaque chose, de l'autre, de notre propre corps aussi, est beaucoup plus grande, beaucoup plus évoluée, donc même à comprendre nos propres maladies, non pas quelqu'un d'autre qui vient nous soigner, mais nous aussi en ingérant cette plante, ressentir notre maladie dans notre corps et ressentir aussi qu'est-ce qui nous a amené à avoir cette maladie et comment se guérir sur différents plans, qui est le plan émotionnel, psychologique, mental et physique aussi.
Ces plantes médecine, tu les découvres là-bas, en Amérique du Sud, ou tu connaissais déjà avant de partir?
J'ai découvert en Amérique du Sud, il y a un ami qui m'en a parlé la semaine avant, il m'a juste prononcé le nom d'une plante, et je ne connaissais pas du tout, il m'a dit « bon, tu verras une fois que tu seras là-bas si ça t'appelle », mais avant j'avais jamais entendu parler de ça, non.
Et alors raconte-moi la rencontre avec les plantes, est-ce que c'est quelque chose qui était récurrent dans ton voyage, ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu t'ouvres à ça, alors qu'avant tu me semblais dire que tu diabolisais les plantes ou les drogues?
Je pense que j'avais très peur aussi avant, c'est-à-dire que pour moi dans les drogues, mon grand frère était décédé d'overdose, donc du coup c'était un sujet très, pour moi c'était synonyme de mort. Et en fait, j'ai été confrontée à la mort à d'autres moments dans mon voyage parce que j'ai été très très malade. Donc j'ai eu une dysenterie qui n'était pas possible de soigner là où j'étais. Et donc j'ai dû avoir un lâcher prise par rapport à la mort parce que je ne pouvais rien faire en fait. Donc j'étais seule, j'étais dans des endroits où ça a été très critique. Donc c'est une nuit où j'ai décidé de me dire bon, en fait, si la mort c'est maintenant, j'accepte parce que je ne peux plus rien faire d'autre. Donc j'ai eu des premières expériences de lâcher prise totale par rapport à la possibilité de mourir. Et en fait, non seulement j'ai continué à vivre, mais en plus, j'ai continué à vivre beaucoup plus j'ai vécu plus pleinement qu'avant, en tout cas. Donc du coup, je me suis dit, alors si à chaque fois que j'ai peur de mourir, il y a des cadeaux comme ça qui se cachent derrière cette peur que j'ai de mourir avec ce que j'appelais les drogues, qu'est-ce qui peut se cacher, en fait? Et donc oui, c'est des petites morts, oui, il y a une part de moi qui est morte, mais c'est une part de moi qui ne me servait pas. C'est une part de moi qui pouvait rester là où elle était, c'était une fiction, une image qui est construite par plein de choses, par nos éducations, par qui on pense être. Et donc du coup, cette part de moi, j'ai pu enfin aller au contact avec les plantes quand j'étais décidée à les laisser mourir.
Tu peux revenir sur cette expérience de maladie seule à l'étranger? Donc là, tu es seule en Amérique du Sud et tu as la dysenterie, c'est ça?
Oui. Oui, j'avais bu certaines boissons que là-bas, ils sont très habitués à boire Et eux ont les organismes pour traiter ça. Moi, j'avais pas ça. Donc, du coup, c'est vrai que bon, je vais pas aller dans les détails parce que c'est peut-être un peu glauque, mais, mais en tout cas, c'était des états de vulnérabilité très forts. Et en même temps, de comprendre dans ces moments-là que j'ai les ressources. Et quand il y a tout autour de moi qui peut venir en aide, donc ici on est déjà dans des milieux qui sont très très safe, mais en plus dès qu'on a la moindre chose, il y a des médecins qui sont là, il y a des hôpitaux, il y a des choses pour prendre en charge, ce qui moi me permettait pas de connecter avec mon propre pouvoir, de ma propre puissance et mon propre pouvoir de guérison. Et en fait, dans ces milieux-là, où il n'y a pas toutes ces possibilités-là, j'ai découvert en moi une force et des pouvoirs d'auto-guérison qui dépassaient totalement ce que mon esprit pouvait penser réel. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais ça, c'était le premier moment, la première preuve que, en fait, voilà, il y a une force en moi qui sommeille, et quand je suis pris en charge en permanence, elle ne peut pas prendre sa place.
Alors, comment tu as fait pour développer ce potentiel d'auto-guérison ? Comment tu es sortie finalement d'une maladie qui aurait pu te faire renoncer à la suite de ton voyage et rentrer en France ?
Voilà, de toute façon, je ne pouvais pas sortir parce que je n'avais pas la force. Donc, en fait, c'est déjà ce lâcher prise qui me fait me dire, bon, ben, là, quand il n'y a pas le choix, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, lâcher et voir ce que la vie amène. Et puis après, il y a une famille qui est dans la maison d'en face, donc qui ont commencé quand même avec des médecines, avec des feuilles de goyavier, des noyaux d'avocat, des choses comme ça, à venir m'aider. Et puis, en fait, j'ai juste attendu, pris le temps d'écouter mon corps. Tout ça, c'est des choses qui sont bêtes. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un grand chaman pour juste descendre dans son corps et écouter ce qu'il a à dire. C'est ce que tout le monde peut faire chez lui, finalement. Sauf que moi, j'ai dû me mettre dans des situations où il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais oui, donc en fait, ça m'a même plus confortée, en fait, dans ce mode de voyage et ce mode de vie qui était, bon, bah, en fait, si je passe ces étapes-là et que je suis tout à fait apte à en ressortir grandi, pourquoi m'arrêter maintenant ? Alors, voilà, ça m'a plutôt confortée dans l'idée que j'avais envie de continuer à découvrir tout le potentiel qui sommeillait en moi.
Et donc, ta rencontre avec les plantes médecine ?
Ma rencontre avec les plantes médecine, alors elle s'est passée parce que j'avais envie d'aider sur un petit festival. Le mot festival est pas bien choisi, sur des rencontres en fait de plein de guérisseurs d'un peu partout qui se rencontraient et qui avaient décidé de boire donc de l'ayahuasca ensemble. Et moi j'étais là pour faire à manger à la base, tout simplement. Et puis comme ça me faisait assez peur, je me tenais pas mal à distance. Et puis en fait ça faisait déjà plusieurs fois que j'étais là dans ces circonstances, et puis en fait, c'était tellement bienveillant, c'était tellement doux, c'était tellement joyeux, ces gens qui étaient d'une pureté de relation entre eux, que je me suis dit, mais si ces gens-là, c'est des personnes qui travaillent avec cette plante, je vois pas comment elle peut être mauvaise. En fait, c'était des personnes qui m'ont juste profondément inspirée, et qui m'inspirent toujours d'ailleurs, que je trouve très lumineux. Et donc il y avait aussi bien des gens, des Péruviens qui venaient qui utilisaient les médecines de leur peuple, mais des gens qui venaient de partout dans le monde.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je suivais des fils de gens que je rencontrais à droite à gauche qui me parlaient d'un endroit puis d'un autre. Des fois je montais dans une voiture, je sais pas où j'allais arriver. Il n'y avait pas une intention ou une décision particulière de ma part. J'ai l'impression, je pense que si mon souvenir s'est pas basé vraiment là-dessus, c'est que ça n'a pas été une idée fixe. C'était juste une personne rencontrée, puis une autre, et une voiture, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à cet endroit-là. Mais pas une décision personnelle consciente très forte, en tout cas.
Donc ça, c'est vraiment ta manière de voyager, finalement, c'est de te laisser guider un petit peu par l'invisible.
Oui. En fait, j'ai une grande foi qu'il y a quelque chose qui me guide, qui est plus grand que ce que mon cerveau, en tout cas, mon conscient peut s'imaginer. Donc, j'ai l'impression que si mon esprit logique et rationnel reprend le pas, il va me guider vers des choses que je connais déjà. Et si je laisse des choses moins rationnelles me guider, me laisser plutôt entraîner dans un flow, et ben là, je vais arriver vers des nouvelles choses qui sont un peu le prochain pas d'évolution, la prochaine Laetitia avec ses nouvelles découvertes.
Il y a un mot que tu as utilisé, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, le chaman. Tu utilisais ce mot-là, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une forme d'engouement vers tout ce qui est peuple racine, peuple premier, première nation. C'est comme s'il y avait cette envie de se reconnecter à une forme d'essentiel que nos sociétés ont perdu. Hein. On vit complètement hors sol, on s'est éloigné les uns des autres, on souffre de solitude. Et si on nous plonge quelque part dans un environnement un peu naturel, souvent on est perdu. On va pas savoir comment faire pour s'alimenter, comment faire pour s'abreuver. Et aujourd'hui, c'est ce manque d'essentiel, cette soif d'essentiel, j'ai l'impression que le chamanisme offre des réponses à nous qui nous sommes perdus dans ce monde matériel.
Ah oui, alors le chaman, bon, je l'ai utilisé là pour l'Amérique du Sud, c'est pas du tout un mot qui vient de là-bas. Là-bas, ils disent homme médecine la plupart du temps, ou taïta, ou plein de mots selon les cultures. Mais en tout cas, on l'utilise généralement pour une personne qui a pas perdu la connexion avec les mondes invisibles et aussi les mondes animaux, les mondes des plantes, donc tout ce qui est finalement ce qu'on a perdu en vivant en ville. Donc c'est aussi des personnes qui captent des choses par la vision, par l'audition, et qui ont la possibilité de voyager entre différents plans, donc de passer des ponts, comme on pourrait dire. Donc il y a plusieurs moyens de passer des ponts, qui sont donc le son, le tambour, qui sont donc les visualisations, qui sont beaucoup de choses. Donc l'aide des plantes est possible, mais il y a aussi une possibilité d'accéder à ces univers chamaniques avec sa plante verte dans son jardin. J'ai envie de caricaturer un petit peu, mais en tout cas, il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher très très loin non plus, quoi.
Mais ça, c'est des fois compliqué, justement, parce qu'en voyageant, on va s'ouvrir à ces réalités-là. Ces rencontres vont nous emmener sur des nouvelles formes de pensée, des nouvelles croyances. Et souvent, on se pose la problématique du retour. Quand on revient ici, on se retrouve dans le carcan des habitudes, et c'est compliqué d'y associer à sa plante verte du jardin, comme tu disais, une divinité, ou un Icaros, ou un chant sacré. C'est aussi un peu j'aimerais savoir toi comment tu te positionnes par rapport à ça, parce qu'on l'a compris, le voyage apporte de la magie. Tu parlais, t'as fait face à la maladie, la mort, le sans argent, t'as toujours réussi à t'en sortir, t'as toujours vécu des choses assez fortes qui t'ont montré ton plein potentiel. Et le retour, comment ça se passe quand on arrive à découvrir qu'on est plus qu'un corps physique, qu'on est plus que ce qu'on pensait être, qu'on a des capacités juste incroyables, que ce soit, tu parlais d'auto-guérison, ou en tout cas d'adaptation dans des contextes culturels différents, et on revient là et on se retrouve plongé dans le connu.
Oui, alors pour moi, il y a eu plusieurs étapes dans ces retours, c'est-à-dire que le connu finalement n'est plus connu parce que les yeux qui regardent sont plus les mêmes. Donc du coup, le connu devient quelque chose d'étrange en se disant « Oh là là, c'est là-dedans que je vivais depuis 22 ans. » Et maintenant, je trouve que ces pratiques sont très particulières. Et donc du coup, la possibilité de revenir dans tout ça comme avant, je pense que c'est pas possible. Et donc du coup, j'ai voulu aborder la France quand j'y suis rentrée comme j'abordais n'importe quel pays en voyage. Parce que déjà, ça me permettait de m'enlever toute la notion de jugement. Parce que je me rendais compte que je jugeais pas les autres pays quand j'arrivais au Pérou ou dans n'importe quel autre pays. J'étais juste curieuse de savoir comment on fonctionne ici. Donc en France, j'arrivais avec tous les jugements parce que c'est ici que je suis née, parce que j'ai ma famille, parce que j'ai des personnes qui me touchent plus particulièrement. Donc j'ai un peu décidé d'aborder la même optique, donc d'ouvrir des yeux nouveaux et me dire comment ça fonctionne ici. Et donc du coup, j'ai un peu l'impression d'être venue comme une étrangère au début. Et petit à petit de reprendre des marques nouvelles et de me dire que j'avais pas du tout envie de revenir à qui était Laetitia avant, mais d'être du coup cette nouvelle personne dans cet environnement-là, comment est-ce qu'elle trouve sa place ? Donc il y a toute une période difficile de revoir des anciens amis, de se rendre compte qu'on ne se comprend plus, qu'on n'utilise plus les mêmes mots, que de voir qu'il y a un deuil à faire aussi de ce qu'on a connu, et ça demande encore une autre étape de revenir vers du nouveau dans un endroit qu'on pense être connu.
Et souvent on parle de ce syndrome du voyage, quand on vit une expérience forte pendant une durée plus ou moins longue, on n'a qu'une envie, c'est de repartir à chaque retour.
Oui, alors au début, en plus j'avais pas décidé par moi-même de revenir, c'était un peu l'aéroport qui m'avait fait revenir, donc ça a été un petit peu complexe, et puis en fait de faire ce voyage-là donc en France, ça m'a permis de découvrir des nouvelles choses que je ne connaissais pas en France, donc au début j'ai eu envie de repartir, j'ai même acheté un billet au bout d'un mois je crois, mais qui était pour 4 mois plus tard, pour la Nouvelle-Zélande, donc pour changer vraiment de destination. Et c'est avéré que quand c'était le moment de monter dans l'avion, je m'y étais vraiment fait à la France. Donc ça a été assez difficile finalement de repartir totalement parce que j'ai découvert d'autres régions, donc l'Ariège et d'autres endroits qui étaient du coup beaucoup plus alternatifs, qui correspondaient beaucoup mieux à mon mode de vie et à qui j'étais à ce moment-là. Mais du coup, je suis quand même repartie très vite en voyage, et à nouveau pour un an, et ainsi de suite. Et c'est devenu finalement un mode de vie constant, même en étant en France. Aujourd'hui, je continue à me sentir voyageuse. Quand on me dit « alors, ton retour de voyage ?» En fait, je pense que je ne suis jamais vraiment retournée. Je pense que ce retour, quelque part, n'est pas possible. Je pense que ce voyage, maintenant, c'est la vie et dans quoi elle m'emmène. Et je ne vois plus vraiment le retour en France comme un retour à... au connu ou à la routine. La routine, ça fait maintenant 8-9 ans que je ne l'ai pas connue.
Mais il y a quand même un autre sujet que j'aimerais aborder dans le voyage, que ce soit ici ou ailleurs. C'est la notion de sens et aussi comment est-ce qu'on arrive à coller à une réalité économique. Parce que c'est aussi ça, hein, la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Et souvent, on se retrouve prisonnier parce qu'on est pris dans le train du quotidien, devoir rembourser ses crédits, avoir un métier. Donc toi, j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un de relativement libre. Donc comment est-ce que tu réponds à la contrainte économique, qui est une contrainte réelle pour beaucoup de gens ?
Alors au niveau de l'économie, en fait, ce qui m'a beaucoup libérée, c'est de m'être retrouvée sans argent. C'est-à-dire que ce qui fait que je suis zen aujourd'hui, c'est que j'étais dans ma crainte de ne plus rien avoir et de voir que tout se passe bien. Donc finalement, ça rend tout beaucoup plus zen. Et puis quand toutes les possessions qu'on a doivent rentrer dans un sac à dos, finalement, on achète moins de choses. Donc en fait, en devenant plus simpliste dans mon mode de vie, en baissant mon niveau aussi de ce que j'appelais le confort, qui finalement, aujourd'hui, je le trouve pas si confortable que ça, et ben ça m'a permis aussi de dépenser beaucoup moins d'argent. Le travail que je fais finalement paye bien, parce qu'à la base le tatouage et tout ça, ce que j'ai développé en cours de voyage, ça finit par me ramener de l'argent. Même mes billets d'avion, je faisais du street art pour des entreprises qui me payaient mes billets, parce que j'avais pas de carte bancaire à ce moment-là, ni de téléphone pour recevoir les confirmations, ni tout ça qui faisait que ça rend les choses plus faciles. Donc j'ai vécu à un moment où assez long, une simplicité qui était assez grande. Après, je comprends qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de plus de confort et d'adapter un mode de vie différemment. Franchement, je ne sais pas si d'arriver à cette simplicité-là, ça conviendrait à tout le monde ou c'est fait pour tout le monde. Là, maintenant, ça fait un an que je me demande si petit à petit, j'ai envie de revenir à peut-être un petit peu plus de matière, gagner un peu plus d'argent, en me disant que voilà, ça a des qualités. Et je me dis que ben, je vais... J'ai pas de doute que si c'est l'intention qui est posée, eh bien, j'y arriverai. Le seul doute que j'ai, c'était que... aujourd'hui, je me demande à quel point l'entre-deux est facile, parce que je me rends compte que, tout de suite, pour les personnes qui payent un loyer, qui se mettent à avoir un travail fixe et tout ça, c'est très facile de retourner dans cet engrenage. Donc, je pense que ça demande vraiment à être très bon équilibriste pour réussir à la fois à avoir un mode de vie classique et à la fois se sentir totalement libre. Donc je pense que c'est ça le prochain challenge que j'ai envie de me proposer, c'est ce travail d'équilibriste qui est de à la fois pouvoir gagner de l'argent et avoir un minimum de confort et pas me laisser emporter vers du coup cette dépendance qui est de toujours devoir gagner et de toujours se laisser emporter dans cette roue. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens dans des collectifs, dans des communautés qui ont très bien réussi à passer ces caps-là avec des enfants, trois enfants, dans des circonstances qui étaient beaucoup plus difficiles que les miennes et qui aujourd'hui vivent des vies très épanouies avec très peu.
Donc je retiens comme conclusion que pour toi, l'homme est bienveillant.
Oui, 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 pour moi, l'homme est bienveillant. Ouais.
L'humanité.
L'humanité, oui, l'homme avec un grand H.
Laetitia, merci beaucoup.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.